Menstruer les sacs à dos saison 2. Une émission consacrée à la transmission des savoirs, à la création d'outils, mais aussi à la conception de projets. Nous allons rencontrer des acteurs du patrimoine en Bretagne et ailleurs. Nous allons évoquer des objets, des lieux, des métiers. Allez, on vous le dit, nous allons parler de médiation en archéologie. Mais c'est quoi donc ? Alors, bienvenue dans Truer les sacs à dos. Alors, nous sommes... Alors là, on profite pleinement. Hein. On a la mer en face de nous. Il y a un petit vent, mais tranquille. Il fait beau. Il y a un grand soleil. Nous sommes à Pinmar. Et donc, je vais à la rencontre de Valérie Dufour. Et comme à notre accoutumée dans Truer les sacs à dos, eh bien, la première question est, peux-tu te présenter, nous parler toi, mais qui es-tu, Valérie ?
Bonjour, donc Valérie Dufour, je suis animatrice environnement pour ma casquette principale pour la collectivité du Haut-Pays Bigoudin, mais j'ai une autre casquette qui prend aussi beaucoup de temps pour le comité de soutien du musée de la préhistoire, pour lequel je suis vice-présidente, mais surtout bénévole médiatrice, mais pour une autre partie. Troisième casquette, je suis aussi auto-entrepreneuse avec une entreprise que j'ai créée en 2019, Détente et Découverte, pour laquelle je peux aussi créer, animer, co-animer des médiations culturelles sur la préhistoire et d'autres... J'ai pas le mot.
D'autres sujets, quoi.
D'autres sujets.
Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours ? Comment t'en es arrivée à faire tout ça ?
C'est un parcours un peu long et sinueux, beaucoup d'animations grand public majoritairement, avec différents thèmes qui tournent beaucoup autour de la mer, forcément, habitant Pinmar, puis habitant Tréogat. On est tourné vers la mer, mais aussi du coup vers l'archéologie. Ici, on a un territoire qui lie très bien les deux. Donc, j'ai eu la chance, après de multitudes d'emplois plus ou moins saisonniers ici, de pouvoir poser mes valises pendant 5 années au musée de la préhistoire à Pinmar, où là, j'étais régisseuse et où j'ai pu vraiment développer tout ce qui était possible de développer dans un musée quasi centenaire.
Et alors, pour ton parcours universitaire, tu avais déjà une filière archéo qui était raccrochée à toi ou c'est arrivé avec le temps ?
Oui, pour le coup, c'est un petit peu fortuit. C'est ça qui est un peu bizarre. Quand j'étais petite, je disais, mais l'histoire, ça sert à rien, c'est du passé. Et puis, de fil en aiguille, dans les différentes visites guidées que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'en fait, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas d'où on vient. Et je me suis vraiment pris d'amour, hein, je pense qu'on peut parler d'amour, pour la préhistoire, notamment cette partie vraiment de notre histoire. Avec une chasse, on va dire, aux dolmens et aux menhirs que je faisais d'abord avec mes parents, puis après de moi-même ici, parce qu'on a un territoire très très riche.
Tu es vraiment originaire de Bretagne, quoi. Tu as fait toute ta vie ici ?
On va dire que maintenant, je me sens bretonne, mais je suis sans racines. Mon père militaire ne m'a pas permis d'avoir un enracinement quelconque. Non, une Lorraine ch'ti qui s'est implantée en Bigoudénie, voilà.
C'est pas mal déjà comme mélange ça. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi de créer ta propre entreprise ?
Là, encore une fois, c'est un coup du sort. Donc, comme je le disais, j'ai eu la chance de travailler pour le musée de la préhistoire pendant 5 ans. Et la dernière année a été le déclenchement de mon auto-entreprise puisque j'ai dû afficher le panneau fermé sur le musée de la préhistoire. Coup dur parce que je pense avoir vraiment tout donné pour ce musée. Et en même temps, coup de chance parce que ça m'a permis de me dévoiler à moi-même puisqu'être auto-entrepreneuse, c'est aussi ça. C'est voir ce dont on est capable et ça fait du bien en fait d'être compensé par autre chose qu'être employé, mais savoir avoir le retour plutôt en direct de nos visiteurs.
Alors, tu fais partie du réseau des sites préhistoriques de Bretagne, justement, avec cette entreprise. Et en fait, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, justement, d'intégrer le réseau ?
Alors, beaucoup, beaucoup d'échanges. Et vraiment, on ne peut pas rester seul. Autant entrepreneur, c'est très bien, mais seul, ça ne marche pas. Et ce réseau, à ce moment-là, a vraiment, pour moi, tout changé. Parce qu'on a pu nous former, on a pu transmettre des façons de faire. Ce n'est pas que de la formation, du savoir, hein, c'est vraiment du savoir-faire, du savoir-être avec son public. Et les transferts de compétences dans tous ces cadres-là ont été vraiment super.
Alors, est-ce que tu pourrais revenir avec nous aussi sur ton expérience au sein du musée, justement, que tu évoquais à l'instant, au musée de la préhistoire, et en quoi consistait exactement ton poste de régisseuse ?
Bah, en fait, c'était le couteau suisse, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Il y avait autant de côté technique, entre guillemets, à avoir sur les collections, à la sécurité. Alors, je ne suis bien sûr pas l'agent de sécurité de nuit ni quoi que ce soit, mais il y a quand même une veille à faire sur les vitrines, sur les objets, sur le comportement du grand public à l'intérieur du musée. Donc, tout ce côté, en fait, très technique, avec aussi le nettoyage hein, qui incombe aussi à la personne quand elle est seule dans un musée. À côté de ça, et ce qui me passionnait le plus, c'était la création d'un planning d'animation et puis de les animer, puisqu'encore une fois, j'avais un petit coup de main l'été, mais autrement, pendant toutes les autres vacances, j'étais seule à créer les animations et à les faire fonctionner. Et du coup, il y a aussi le côté comptabilité, entre guillemets, c'est ce que ça veut dire, un régisseur hein, dans le service public, c'était donc amener les fonds au trésor public.
Alors, aujourd'hui, le musée, il est fermé. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu là aussi aujourd'hui, moi. Et donc là, pourquoi toi, tu as souhaité intégrer le comité de soutien? Et puis, est-ce que tu peux revenir peut-être sur l'historique de la création du comité de soutien?
Alors, le comité de soutien, il est avant même ma prise de poste au musée de la Préhistoire. Puisqu'il a été créé en 2013, on va dire, en hiver en tout cas. Je me souviendrai toujours de cette soirée... Oh là là, de janvier, la tête froide, où Martine, la régisseuse à ce moment-là du musée, nous a appelé d'un cri d'alerte toutes les personnes qui pouvaient être mobilisées sur Pinmar et alentour pour sauver son poste et le musée, parce qu'elle avait donc la malencontreuse, comment on pourrait appeler ça, nouvelle, enfin en tout cas une nouvelle terrible est arrivée, comme quoi on ne reconduisait pas son poste et que le musée allait donc fermer. Elle a réuni les personnes qui étaient déjà plus ou moins bénévoles dans le musée ou qui faisaient des animations, parce que déjà à l'époque, elle avait déjà créé plein de belles animations. Et de là est né le comité de soutien. Le comité de soutien a toujours eu pour l'instant comme président Christian Liotto, qui est vraiment un des piliers fondateurs de ce comité de soutien avec Martine, la régisseuse d'alors. Puisque c'est eux qui avaient les clés en main pour toucher les personnes importantes pour essayer de réouvrir le musée. Donc le premier coup a été fulgurant. On avait réuni plus de 2000 personnes dans la salle Cap Caval à Pinmar et du coup réveillé un petit peu tout ce beau monde autour du musée. Et le musée avait pu ouvrir finalement ses portes avec une autre gestion, puisqu'à l'époque c'était l'Université de Rennes hein, qui gérait le musée. Là maintenant, c'est, enfin à l'époque plutôt... Ouais. Je parle comme si c'était encore, mais non, c'est passé. C'est compliqué encore pour moi d'en parler, je crois. Donc, en fait, ça a passé à la main de la collectivité du pays Bigoudin Sud. Et donc, c'est grâce à elle hein, qu'on a pu survivre un peu plus longtemps avec ce musée, avec son ouverture de ces 5 fameuses années. Donc, le comité de soutien a toujours été vivant, hein, plus ou moins en sommeil hein, quand la gestion avait été reprise. Mais là, avec cette nouvelle fermeture depuis 2019, le comité de soutien est... de plus en plus vaillant, de plus en plus visible, puisque du coup, c'est lui qui prend en main, on va dire, les animations pour essayer d'éveiller encore une fois le grand public, les scientifiques, les élus, aux besoins qu'on peut avoir ici sur le territoire d'un tel atout culturel.
Alors, juste pour revenir, parce que tu évoques Martine depuis le début en tant que régisseuse, c'est juste de citer son nom peut-être, et puis peut-être un peu aussi son... Parce que, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle faisait aussi au sein du musée?
C'est vrai que Martine, pour moi, c'est... Oui, c'est Martine, c'est l'indissociable du musée. Pour moi, c'est elle qui m'avait tout appris, qui m'a passé le flambeau et à qui je dois beaucoup. Et donc, c'est Martine Cariou qui a, elle, donné 9 années de sa vie à ce musée, qui avait du coup les mêmes fonctions que ce que j'ai eu par la suite. Comme je vous dis, c'est vraiment le flambeau qu'elle m'a légué. Seulement, elle avait cette gestion par l'université et elle avait d'ailleurs cette accroche très, très liée avec les scientifiques que j'ai trouvé vraiment top, quoi. Et ça, encore une fois, à ne jamais, c'est pas mépriser, mais en tout cas, à mettre en avant pour chacun des musées, quand ils sont un petit peu dans la panade, c'est important de les avoir comme soutien. Ouais.
Alors là, aujourd'hui, donc c'est ce que tu dis, le comité de soutien, justement, est fort, est vif et essaie de relancer aussi de l'activité autour du site et justement de le faire connaître à minima, même si le mobilier n'est plus à l'intérieur, puisque le mobilier a été transféré au Centre départemental d'archéologie du Fou. On en a déjà parlé plus ou moins dans différentes émissions de Trouver les sacs à dos. Et alors, quelles sont les actualités du comité aujourd'hui?
Alors là, on est dans le lancement du centenaire du musée de la préhistoire. Oui, on y tient vraiment, même s'il n'est pas ouvert en tant que tel. Le parc des mégalithes est toujours visitable. Donc, on fait beaucoup d'animations dans ce parc des mégalithes. Donc, qui en lui-même est déjà super intéressant, avec 75 éléments classés monuments historiques. Et dans ce parc, on a suffisamment d'espace pour faire, par exemple, des lancers de sagaies, pour faire des invitations un peu atypiques avec des personnes qui peuvent faire de la cuisine au néolithique, à l'époque gauloise. Donc on essaye vraiment d'amener plein de personnes différentes sur des thèmes du néolithique en passant par le paléolithique jusqu'aux âges des métaux, avec certains fondeurs de minerais notamment, pour essayer de réveiller ce musée et ce parc.
Oui, on a pu rencontrer Malo Carverne aussi dans Truelle et Sacadéo, qui nous a raconté un petit peu ce qu'il fait autour des métaux. Alors moi je voulais savoir ce que c'était pour toi la médiation en archéologie et peut-être que... Justement, en quoi elle peut être utile pour la réouverture ou en tout cas par rapport au comité de soutien au travail qui est effectué, en quoi ça peut jouer ?
La médiation, pour moi, c'est indissociable d'un musée. Sans médiation, il n'y a pas de musée vivant en tout cas. Et le but, je pense, hein, pour tout le monde quand il visite un musée, c'est d'apprendre des choses. Donc la transmission, elle est la base du service que doit rendre un musée. Donc la médiation, c'est savoir améliorer, on va dire, les recherches des scientifiques dans le sens où il faut les vulgariser, les rendre potables, si je puis dire, et, à tout le monde, aux enfants, aux ados, compliqué, et aux grands, et aux plus grands encore. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger aucune cible possible pour la médiation.
Et alors toi, de ton côté, avec ton entreprise, est-ce que tu as de l'actualité aussi en cours, peut-être un peu d'activité Alors sur quoi tu travailles habituellement ?
Alors là, en ce moment, j'avoue que j'ai un peu laissé de côté tout ce qui va être visite guidée à mon propre compte. Parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent, qui me dépassent au niveau des visites guidées, c'est la transition écologique. Donc j'avoue que là pour l'instant je me penche sur comment apprendre plus sur ce qui va nous arriver pour pouvoir le transmettre de façon non anxiogène et du coup faire des liens, des passerelles avec peut-être l'archéologie, le musée certainement, la pêche, puisqu'on est ici dans le milieu littoral. Il y a d'autres choses pour l'instant pour moi qu'il faut que j'apprenne pour pouvoir mieux le rendre.
Alors là, tu suis des formations spécifiques peut-être aussi ?
Entre autres, oui. Enfin, en fait, je prends vraiment tout ce qui est possible de prendre autour de moi. En fait, comme je le disais, comme le réseau des sites préhistoriques de Bretagne, rien que par des échanges avec eux, on peut déjà avoir des informations. Parce que dans l'archéologie, par exemple, on parle de palynologie, donc la science des pollens qui nous apprend beaucoup de choses sur notre passé. Donc en fait, je n'ai pas un cursus particulier de formation. Je prends partout où je peux.
Ça vient compléter ce que tu évoquais tout à l'heure aussi en termes de parcours, quoi. Ça, tu passes un peu par tous les domaines pour amener de l'information. Et donc, habituellement, les visites que tu proposais autour de Pinmar, c'était autour de quoi ?
Alors c'est bien sûr le musée de la préhistoire qui est le point de phare, on va dire, des visites avec le parc des mégalithes que je peux toujours hein, faire visiter en français, anglais, allemand d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour des groupes et des jumelages.
Trilingue.
Ça peut
notons.
Et puis la pointe de la torche, parce qu'en fait, face au musée de la préhistoire, on a un site diachronique magnifique, donc avec plusieurs époques qui nous est livré comme ça, à ciel ouvert, du mésolithique jusqu'à l'âge du fer, et même si on veut parler de la Seconde Guerre mondiale, on peut. Donc vraiment un site idéal. Donc j'ai pas beaucoup à bouger hein, pour faire des visites guidées finalement. Tout se trouve à Pinmar et dans un rayon de 4 km. On a de très beaux mégalithes. Donc c'est vrai que quand j'ai lancé mon entreprise, je faisais aussi des balades à vélo sur les sites mégalithiques des environs. Ça plaisait beaucoup. C'est beaucoup d'énergie, tant sportivement que psychologiquement, parce que c'est pas pareil hein, de mener un groupe à pied ou en vélo. Donc c'est des choses que j'aimerais refaire assez vite, hein, c'est clair. Mais pour ça, il faut déjà que je vois avec ma casquette environnement ce qu'il en est, parce que je pense qu'il y a quand même un point important à avoir en tête là, sur notre futur.
Ouais. Alors, après, sur Truelle et Sacadéo, nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'on nous donne aussi des pistes un petit peu, ou des idées de visites, des lieux, ou des choses, des gens peut-être qui ont pu t'inspirer, des livres. Est-ce que tu aurais tout ça dans ta besace, des idées qui te viendraient à l'esprit ? Parce qu'il y a à la fois les auditeurs de Radio Évasion qui écoutent, il y a ceux qui l'écoutent de manière libre en podcast, et puis moi j'ai des étudiants aussi derrière qui sont attentifs et qui essaient de suivre un peu l'actu de la médiation archéo en Bretagne. Alors, est-ce que tu aurais plein de choses comme ça à nous suggérer ?
Alors, la première chose, il faut suivre l'actualité du musée, enfin du comité de soutien du musée de la préhistoire. Venez très nombreux au centenaire. Plus vous serez nombreux, plus on pourra se dire que le musée mérite vraiment ses lettres de noblesse et ce centenaire. D'autre part, des gens qui m'ont inspiré, alors je ne sais pas où est-ce qu'il en est, peut-être que ce serait une prochaine interview, c'est Philippe Guillonnet, moi que j'admire pour tout ce qu'il a pu faire. Donc au musée, il avait par exemple creusé avec son acolyte, moi-même, et une partie du comité de soutien, une pirogue.
Alors on a eu Philippe et Vincent, on a eu Philippe et Guillonnet et Vincent Bernard. Alors, Philippe pour Préhistoire Interactive et Vincent pour Coruc. Et où justement on a fait un petit topo sur les pirogues qui passent plus de temps sur la route que dans l'eau. Et où il a pu nous expliquer un petit peu ce qu'il en était, puis la suite du projet justement avec Coruc, où on en est quoi.
D'accord. Bah, la nôtre, elle avait bien navigué au musée de la préhistoire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que, voilà, qui est inspirant, je trouve, de remettre des éléments du passé comme ça à flot, c'est le cas de le dire, pour rendre plus vivant encore.
Oui, c'est ça, sur l'archéologie expérimentale. Là, dernièrement, on a recroisé Rosalie Jallot, donc j'espère que je pourrai aussi l'interviewer pour l'association APERA, où là, même chose, avec plusieurs archéologues, étudiants en particulier, où ils essaient aussi de faire de l'archéologie expérimentale. Donc là, c'est de l'extraction, c'est du lithique. Donc on extrait de la pierre. Donc là, elle a tapé dans le schiste et bientôt, elle va taper dans le granit. Et pareil, on apprend sur place avec elle. Donc c'est assez intéressant. Alors ce que tu disais, donc l'actualité pour le comité de soutien. Alors est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a des moments clés, des conférences? Alors là, aujourd'hui, nous, on va voir Pierre Goulet-Kerr. Et donc normalement, je pense que pour le centenaire, c'est plutôt septembre, hein, dans mon souvenir. C'est plutôt à la rentrée quoi, que c'est positionné. Et pareil, il y a plein d'activités aussi qui vont être proposées pendant l'été. Il y a tout un petit programme avec des animations spécifiques. Moi, j'ai vu passer quelques dates comme ça. Je crois qu'il y a Grégoire Marchand qui a été sollicité, Marie Vander aussi. Alors, je ne sais pas du tout quelles seront les réponses, si elles seront là, si elle sera là ou pas. Si... Voilà. Mais en tout cas, pour le centenaire, il y a pas mal de choses qui se préparent. Quoi.
Ouais.
Yes. Donc, le programme qui va bien, dites-nous tout, Valérie.
Du coup, j'en ai phare, j'en ai marre de dire phare, j'arrête pas.
Mais bon, le phare d'Aigle Moule n'est pas loin.
Les gens du phare qui me... du coup, on a une journée colloque le 22 septembre 2023, qui est vraiment la date à retenir, hein, le 22 septembre 2023, notamment donc, à la salle Cap Caval à Pinmar, puisque voilà, il nous faut quand même un endroit en septembre à l'abri des intempéries, on ne sait jamais, où là on va vraiment ramener un maximum de participants pour parler du coup de tous les projets en lien de près ou de loin avec le musée. Donc Marie Vander, par exemple, du CNRS, Francis Bordas ou Grégoire Marchand. On va aussi avoir, on espère avoir la chance pour la géomorphologie et de l'archéologie en baie d'Audierne d'avoir Agnieszka donc de l'UBO et Stéphane Blanchet de l'INRAP. On a aussi sollicité Olivier Kaiser, donc on espère qu'il sera présent. Et bien sûr Grégoire Marchand hein, qui suit le musée depuis le départ et le comité de soutien aussi depuis 2012.
Oui, et puis qui a pas mal d'études sur le feu là, qui viennent de sortir, qui peuvent être intéressantes en paléogénétique, enfin des choses
oui.
Ouais, dont Florian Cousseau a parlé aussi dans une dernière conférence et j'espère pouvoir avoir Florian Cousseau aussi bientôt au micro de Truelle et sac à dos. Eh bien, merci beaucoup Valérie de t'être prêtée au jeu de Truelle et sac à dos. Alors nous, on se retrouve, c'est tous les 15 jours. C'est le mercredi matin, mais en même temps, pour ceux qui veulent nous écouter, eh bien, il y a les plateformes de podcast. Vous choisissez celle que vous voulez, votre préférée. Et vous pouvez nous écouter aussi en replay. Et on est aussi en replay sur la radio le dimanche. Voilà, donc ce qui fait que normalement, on arrive à nous retrouver assez facilement. Et puis ben, nous, après, on va partir avec notre sac à dos. Alors à l'aventure, voilà, je parlais de Florian Cousseau que j'aimerais bien avoir. J'espère avoir aussi à nouveau Jean-Michel Bonvalet pour le CMN qui est déjà venu à ce micro. Et puis j'ai aussi Maude Leclinch pour Mellerand. J'ai un petit peu des petites choses dans mon sac. Et puis bah, cet après-midi, il y a Pierre Goulet-Kerr. Alors j'espère pouvoir récupérer aussi une petite interview de Pierre. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Merci Valérie de t'être prêtée vraiment à ce petit jeu-là.
Merci Céline.
Comme vous l'avez entendu, nous vous invitons tous à fêter l'année du centenaire du musée de la préhistoire finistérienne le vendredi 22 septembre à la salle Cap Caval de Pinmar. Et pour vous faire patienter, le comité de soutien du musée dont nous faisons partie avec Archéolab vous invite dès le samedi 27 mai à rencontrer Nicolas Nodino qui évoquera les découvertes archéologiques effectuées dans l'abri du rocher de l'impératrice à Plougastel d'Aoulas. En particulier, les gravures laissées par ces chasseurs il y a environ 14 500 ans durant le paléolithique supérieur. Suivront des interventions dans le cadre des journées de l'archéologie, les 17 et 18 juin.
Nous vous tiendrons informés à la fois des suites des aventures du comité et du programme des journées de l'archéologie à venir en Bretagne. D'ici là, bonne écoute de Truelle et Sac à dos sur Radio Évasion.